Les contes du perroquet dans l'édition Les Joyaux de l'Orient. Quatrième conte. Quand la perruche eut amené la narration à cet endroit, le soir était venu. La jeune femme ôta le voile de sa tête et dit à la vieille « Aujourd'hui encore il est tard, reviens demain pour que nous allions voir l'ami. » Bref, la vieille, décrépite, sortit de la maison, émettant des grognements semblables à ceux qu'on pourrait entendre d'une tour pleine de poisons de serpents et en répétant « Je n'ose plus me présenter devant le prince. » Elle alla donc à la maison. Le jour venu, elle mit un voile sur sa tête et se rendit à la maison de la jeune femme à qui elle débita quelques boniments destinés à enflammer son cœur et à la décider à sortir. La jeune femme mit un voile sur sa tête et s'étant approchée de la perruche lui dit « Oh, mon cher compagnon, permets-moi d'aller aujourd'hui voir l'ami. » La perruche dit « Oh, ma bienheureuse maîtresse, moi je te permets d'y aller, mais ne fais pas comme le bûcheron qui s'était repenti de sa conduite. » La jeune femme dit « Comment cela s'est-il passé ?» La perruche dit « Sache qu'il était un bûcheron qui allait chaque jour dans le désert et dans la montagne. Il y ramassait une botte de ronces qu'il rapportait et vendait pour la subsistance de sa famille. Étant allé un jour par hasard dans la montagne, il avait ramassé une telle quantité de ronces qu'il n'eut pas la force de les porter jusqu'à la ville. Il les déposa, donc, à l'intérieur d'une caverne dans la montagne, avec l'intention de revenir le lendemain pour les emporter. Il arriva, cependant, que, durant les 3 ou 4 jours suivants, il neigea et il plut, et qu'il ne lui fut pas possible d'aller les chercher. Comme par hasard, une caravane passa par là, dans la neige et la pluie, et les gens de la caravane brûlèrent toutes ces ronces avant de continuer leur route. Puis l'atmosphère s'éclaircit et le sol devint sec. Le bûcheron sortit de sa maison, partit dans la montagne et vit qu'on avait brûlé ses fagots. Il leva la tête et en remercia Dieu. À ce moment, il vit que la voûte de la caverne était devenue de l'or et de la pierre philosophale. Le bûcheron prit un peu de cet or et, ayant rendu grâces à Dieu, s'en retourna à la maison. Il vendit une partie de cet or et se construisit une maison. Puis il revint à la caverne et emporta le reste de l'or. Parce qu'il avait été patient et reconnaissant, il devint ainsi un homme riche. Puis Dieu lui donna 2 fils, l'un qu'il appela Saad, l'autre Saïd. Quand ces 2 enfants arrivèrent respectivement à l'âge de 7 et 8 ans, il les envoya à l'école. Le bûcheron avait l'habitude d'aller chaque jour à la mosquée faire ses dévotions. Un jour, en passant dans le bazar, le bûcheron y aperçut un chasseur tenant dans la main un oiseau bigarré. Le bûcheron acheta cet oiseau pour ses fils et l'apporta à la maison. Les 2 garçons jouaient chaque jour avec cet oiseau. 3 jours après, l'oiseau pondit un œuf, semblable à un bijou resplendissant. Le bûcheron, prenant cet œuf, s'en alla au bazar. Mais il eut beau l'offrir partout, personne ne voulut l'acheter. À la fin, il arriva à la porte de la boutique d'un juif. Lorsque le regard du juif tomba sur l'œuf, il appela le bûcheron et lui acheta finalement 7 œufs pour 1000 tomans. Puis il lui dit « En as-tu encore ou non ?» L'autre répondit « Si l'oiseau en pond encore, je te les apporterai. » Le juif consulta un livre et y vit que, d'après tous les indices, il s'agissait de l'oiseau de la bonne fortune et que quiconque mangerait la tête de l'oiseau deviendrait roi. Quiconque mangerait le foie de cet oiseau trouverait chaque matin son Thomas sous son oreiller, et après un certain temps, retrouverait son ami et deviendrait aussi roi. Le juif se mit à réfléchir par quel stratagème il pourrait s'emparer de l'oiseau. Pendant une période de 40 jours, le bûcheron apporta et vendit aux juifs des œufs semblables et toucha leur prix. Un soir, que le juif songeait de nouveau à la façon dont il fallait s'y prendre pour s'emparer de l'oiseau, une vieille femme vint le voir pour une affaire quelconque. Il lui dit « Oh, ma mère, va te promener demain dans la ville et préviens-moi si tu vois quelque part un oiseau pareil. » La vieille dit « Je considère cela comme un devoir aussi cher que mes yeux. » Le jour venu, cette décrépite tueuse de ferrades s'en vint dans la ville et s'y promena jusqu'à ce qu'elle arrivât à la porte de la maison du bûcheron. Entrant dans la maison, elle y vit l'oiseau même que lui avait décrit le juif. Elle commença à causer jusqu'à ce que le cœur de la femme du bûcheron s'alluma d'amitié pour elle. Puis elle s'en retourna auprès du juif et lui dit « J'ai vu cet oiseau dans telle et telle maison. » Le juif dit « Si tu parviens à persuader la femme de cet homme de se donner à moi, je te donnerai tout ce que tu voudras. » Cette vieille astucieuse dit « Je considérerai cela comme un devoir aussi cher que mes yeux. » Le juif donna un peu d'or à la vieille qui alla au bazar, y acheta un peu de fruits et les porta à la maison du bûcheron. La femme du bûcheron se leva et lui prodigua de nombreuses marques d'amitié. La conversation toucha à toutes sortes de sujets jusqu'à ce que la vieille pût réchauffer en sa faveur le cœur de la femme. Tout à coup, le bûcheron entra par la porte. Sa femme se leva et lui rendit des honneurs. Cette vieille décrépite dit « Oh, mon enfant, n'est-ce pas dommage que tu sois obligé de passer ta vie avec ce vieillard ?» L'autre dit « Oh, ma sœur, il n'y a pas de remède. » La vieille dit « Si tu jures de m'obéir, je te ferai connaître un adolescent qui n'a pas son pareil au monde. » La femme du bûcheron jura à la vieille de ne pas avoir d'autre volonté que la sienne. Cette intrigante dit « Moi aussi, je m'engage à te faire connaître un jeune homme sur les yeux duquel tu pourras pendant toute ta vie mettre tes pieds et marcher dessus. » Elles conclurent donc un pareil engagement. Et la vieille alla retrouver le juif et lui dit « Je l'ai persuadé, mais j'ai dû dépenser une certaine somme d'argent. » Le juif dit « Je te suis obligé. » Et tout de suite, il lui en donna le double. La vieille l'emmena auprès de cette femme. Ce juif était très agréable et il débita tant de compliments à la femme du bûcheron qu'il jeta le feu dans son âme et peu s'en fallut qu'elle n'en tomba morte. Elle finit par lui exprimer son désir. Le juif dit « Si tu veux t'acquérir mon amour, il faut que tu tues cet oiseau et que tu me le serves pour que j'en mange un peu. Alors, je contenterai ton désir. Je reviendrai ce soir. » Le juif alla au bain et la femme tua tout de suite l'oiseau, le fit cuire et le mit sur un plat. Les fils du bûcheron étaient à l'école. En sortant de l'école, ils vinrent à la maison et s'aperçurent que leur mère n'y était pas et qu'un plat de nourriture était servi. Les deux garçons s'approchèrent, s'assirent auprès du plat et se mirent à manger. Il se trouva que l'un d'eux mangea la tête de l'oiseau et l'autre son foie. Tout à coup, l'homme arriva. La femme l'attendait au coin de la rue. Elle lui prit la main et tous deux pénétrèrent dans la maison. La femme le fit entrer dans une chambre et alla elle-même dans l'autre pour chercher le mets. Elle vit que ses fils étaient assis auprès du plat et mangeaient. Quand la femme les vit, elle leur donna des coups, et les enfants, ayant peur de leur mère, s'enfuirent et se cachèrent dans un coin. La femme arrangea le plat à moitié mangé et l'apporta au juif. Le juif regarda et vit que ni la tête de l'oiseau, ni le foie n'y étaient. Il dit « Mon Dieu, quelle étonnante hospitalité tu me réserves. Tu apportes un plat à moitié mangé à ton hôte. » La femme dit « Pardonne-moi, les enfants sont arrivés de l'école et on en mangeait un peu par ignorance. À l'instant même, je vais te préparer quelque chose d'autre. » Le juif dit « J'avais un autre but. Ce qu'il me faut, c'est la tête et le foie de cet oiseau. Autrement, il y en a 100 comme toi qui brûlent du désir de passer une heure avec moi. » La femme dit « Oh, homme, que faut-il faire ?» Le juif répéta une incantation, souffla sur la femme et dit « Si tu veux être aimé par moi, tu devras ouvrir le ventre à tes fils et en retirer la tête et le foie de l'oiseau afin que je les mange. Cela fait, je satisferai ta passion. La tête et le foie de cet oiseau ne se décomposent pas. Préviens-moi et je viendrai leur donner une drogue qui les rétablira. » La femme y consentit. Écoute maintenant quelques mots sur les voies de la Providence. Pendant que le juif s'entretenait avec la femme, Saïd était debout derrière un rideau. Il entendit la conversation, vint auprès de Saad et lui dit « Oh, mon frère, viens, prenons la fuite, car notre mère est tombée amoureuse du juif et a l'intention de nous tuer. » Et il raconta à Saad tout ce qu'il avait entendu. Bref, tous deux s'enfuirent de suite et marchèrent jusqu'à ce qu'ils parvinrent dans un désert. Ils furent assaillis par le sommeil, mais n'y faisant pas attention, ils continuèrent à marcher. « Maintenant, rappelle-toi qu'ils sont en train de marcher et écoute quelques mots sur la femme qui, ayant cherché partout, n'a pu retrouver ses fils. Une clameur s'éleva de la maison du bûcheron. La femme du bûcheron se frappait la tête de la main du regret et répétait « Vois ce qui est arrivé sur ma tête. J'avais suivi les conseils de cette vieille femme et je n'ai réussi ni à satisfaire mon désir, ni à garder mes fils. » Mais les deux garçons, ayant pris le chemin du désert, cheminèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Ils s'endormirent au bord de la route, en entourant chacun d'une main le cou de l'autre. Au matin, tous deux se levèrent, et Saïd vit qu'il y avait une bourse pleine d'or sous sa tête. Il la prit et la donna à son frère en lui disant « Garde-la, un jour on en aura besoin. » Bref, ce jour-là, ils marchèrent jusqu'à midi, quand ils arrivèrent près d'une source, où ils se reposèrent une heure. Ensuite, Saad se leva et fit le tour de la source en se promenant. Il découvrit alors une tablette qu'il ramassa et lut, et vut qu'il y était écrit « Ô fils d'Adam, quand deux personnes voudront prendre ensemble cette route, toutes deux périront. Il faut que l'un d'eux aille à droite et l'autre à gauche. Celui qui ira à droite deviendra roi, et celui qui ira à gauche sera réuni à son ami après un certain temps. Mais celui-là aussi deviendra roi. » Alors Saad et Saïd s'embrassèrent longuement et versèrent beaucoup de larmes. Puis ils partirent, chacun de son côté. Saïd marcha pendant 4 jours jusqu'à ce qu'il arrivât dans une ville. Il avait sur lui de l'argent. Entrant dans le bazar, il s'acheta un cheval, des armes et des habits et partit pour un autre pays. Il ne perdit pas de temps et allant de ville en ville, de contrée en contrée, il parvint à une ville dont toute la population était sur pied à la porte de la ville. Il demanda ce que cela voulait dire, et on lui répondit que le roi de ce pays était mort, et que c'était la coutume de ce pays de mettre en liberté un faucon qu'on gardait à cette fin et de proclamer roi celui sur la tête de qui le faucon se poserait, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Il éperonna donc son cheval dans l'espoir de voir le faucon descendre sur sa tête. Cependant, l'armée avait deux fois laissé voler le faucon et à chaque fois, le faucon était allé se percher au haut d'un mur. Les habitants s'en étonnèrent, mais voyant apparaître un cavalier, ils dirent « Attendez que ce cavalier s'approche !» On attendit jusqu'à ce que Saïd parvint à l'endroit où se trouvait l'armée. Alors on laissa partir le faucon. Le faucon alla se poser sur la tête de Saïd. Bref, on le laissa s'envoler trois fois. Et à trois reprises, il alla se poser sur la tête de Saïd. Tous courbèrent la tête en signe d'obéissance et, ayant pris Saïd, le firent entrer avec tous les honneurs en usage dans la ville et lui firent endosser les robes royales et le firent asseoir sur le trône d'or. Saïd inaugura une ère de justice et de rectitude. Quoiqu'il fût fils de paysan, il sut adopter les manières des grands de ce monde. Écoute maintenant quelques mots sur Saab, qui parcourait vallée après vallée, station après station, et trouvait chaque jour 100 aumans sous sa tête. Il devint ainsi en peu de temps un homme riche. Bref, il allait de ville en ville, de contrée en contrée, jusqu'à ce qu'il arrivât dans une ville qui s'appelait Alep. Il entra dans la ville, s'établit dans une maison et alla se promener en ville jusqu'à ce qu'il arrivât au pied d'un château. À la porte du château, il vit quatre hommes assis sur les cendres. Il alla s'asseoir à côté d'eux et leur demanda des explications en disant « Quel est ce château ?» Ils dirent « Oh, jeune homme, c'est le château de Dilaram, la chinoise. Nous sommes venus ici, chacun d'une ville différente, et tout ce que nous avions comme argent, nous l'avons perdu. Et maintenant, nous n'avons plus le courage de rentrer chez nous. Cette Dilaram prend 100 aumans par nuit et admet chez elle n'importe qui. » Saad dit « Étant donné que moi j'ai 100 aumans par nuit, cette place est la mienne. » Il entra dans le château et la nuit tomba. Mais Dilaram avait 40 servantes qui toutes lui ressemblaient. Bref, chaque nuit, elle envoyait une de ses servantes qui couchait avec lui. Enfin, il passa agréablement 40 nuits de cette façon. Alors Dilaram regarda et vit que Saad mettait la main sous la tête, en retirait de l'argent et le donnait à son amante. Dilaram comprit que Saad avait mangé le foie de l'oiseau de la bonne fortune. Et un plan se forma dans son âme. Elle dit « Il faut faire quelque chose qui lui fasse rendre le foie, car le foie de l'oiseau de la bonne fortune ne se digère pas. » Elle envoya chercher du vieux vin et donna à boire à Saad qui en perdit connaissance. Quand il revint à lui, il se mit à vomir et on lui donna des coups sur le dos, ce qui lui fit rendre le foie par la gorge. Dilaram le fit frire et le mangea. Le jour venu, Saad se leva, mit la main sous la tête et vit qu'il n'y avait rien. Il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé et dit « Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent sur moi. » En continuant de s'étonner de son cas, il dit « Je vais chercher de l'argent. » Et il sortit du château, le cœur plein de douleur et les yeux pleins de larmes, se dirigea dans le désert et alla en répétant « Vois ce qui est arrivé sur ma tête !» Finalement, il se sentit fatigué et s'assit au bord du chemin. Deux hommes qui passaient par là le virent assis au bord de la route, la tête sur les genoux. En entendant le bruit de leurs pas, il leva la tête. Ils lui demandèrent ses circonstances en disant « D'où viens-tu? et où vas-tu ? Il dit : Je suis l'assistant du kazi de cette ville. Je me suis fâché avec lui et je veux aller dans un autre pays. En entendant ces paroles, ils lui dirent : Nous avons une affaire litigieuse. Notre père est mort et tout ce que nous avions, nous l'avons partagé, à l'exception de 3 objets, car chacun d'eux possède une vertu particulière. Sa dit : Qui était votre père ? Ils dirent : Notre père était Simon, le Juif. Il se dit en lui-même : Ah, mon Dieu, comment pourrais-je prendre ma revanche de ces cavaliers ? Puis il leur dit : Si je partage pour vous ces 3 objets, qu'est-ce que vous allez me donner ? Ils dirent : Chacun de nous te donnera 3000 dirhams. Saad accepta et dit : Montrez les 3 objets. Ils les montrèrent et Saad vit que ce n'était qu'un petit sac en cuir, une boîte à collyre et un petit tapis. Saad dit : Prenez chacun un de ces objets. Ils dirent : Ô jeune homme, ils possèdent chacun une vertu particulière. Saad dit : Faites-moi connaître leurs propriétés afin que je puisse les partager entre vous. Ils dirent : La propriété du petit tapis est que, si quelqu'un s'assied dessus et dit : Au nom de Sa Majesté Salomon, emmène-moi dans tel endroit, le tapis se lève en l'air et ne descend que dans l'endroit indiqué. La propriété du petit sac en cuir est que, si on y plonge la main, on peut en retirer ce qu'on voudra, soit des fruits ou autre chose. La propriété de la boîte à collyre est que celui qui s'en applique à ses yeux voit tout le monde sans être vu lui-même. Saad dit : Je mettrai 3 flèches sur la corde de mon arc et je les enverrai toutes les 3 dans des directions différentes. Celui de vous qui les apportera avant l'autre aura les 3 objets. Puis il mit 3 flèches sur la corde de son arc et les tira dans des directions différentes. Eux se mirent à cheval et coururent après les flèches, chacun dans sa direction. Quand ils furent hors de vue, Saad se leva, adressa une prière à Dieu et s'assit sur le petit tapis. Le tapis se leva dans l'air. Lorsque les cavaliers, qui étaient partis à la recherche des flèches, revinrent et virent le petit tapis flottant dans l'air, ils se frappèrent la tête de la main du regret d'avoir expliqué les propriétés des 3 objets à Saad. Saad d'en haut leur cria : Ô jeunes gens, ne vous chagrinez pas, car je n'ai fait que revendiquer mon droit. Votre père a voulu me tuer, mais Dieu ne l'a pas voulu. Les cavaliers alors se repentirent et, tournant bride, regagnèrent leur pays. Saad, cependant, arriva dans l'espace d'une heure au pays de Dilaram et descendit dans un coin. Il appliqua immédiatement le bâton de collyre à ses yeux et entra dans le château de Dilaram. Il vit cette amie infidèle assise, occupée à manger. Saad, à la vue de cette astucieuse effrontée, fut troublé et s'évanouit. Quand il revint à lui, il dit : Quand j'ai vu cette femme à figure de péril, mon cœur commença à souffrir à cause d'elle. Tu emportes les cœurs en plaisantant, tu sais, et ton Dieu, comment ? Puis il s'avança et commença à manger. Cette astucieuse coquette regarda le coin du plateau et s'aperçut qu'il était vide. Ne sachant pas qu'il y avait quelqu'un qui mangeait avec elle, elle eut peur et se fit apporter de l'eau. Elle but de l'eau et entendit une voix qui disait : Grand bien vous fasse ! Sa peur ne fit qu'augmenter. Elle tomba et perdit connaissance. Finalement, Saad se leva et sortit de la maison. Lorsque vint le matin, il tira une pomme du petit sac en cuir et se dirigea vers le château de Dilaram. Il vit qu'il y avait un rassemblement autour du château de Dilaram. Il cria aux gens : Eh, allez-vous-en de cette maison !» Ils s'en allèrent. Saad vint s'asseoir au chevet de Dilaram. De suite, Dilaram revint à elle et vit que Saad était assis à son chevet. Saad alors lui dit « Je suis allé au jardin d'Hiram et t'en ai rapporté un remède. J'ai un serviteur qui appartient aux cohortes des génies, mais il ne vient pas dans les endroits habités. Et cette fois-ci, j'ai apporté tant de richesses qu'on ne peut pas les compter. Il faut que tu viennes avec moi pour que je te les remette. » Dilaram, croyant que Saad disait la vérité, se leva et partit avec lui. Saad tira quelques fruits du petit sac en cuir, les déposa devant Dilaram, la plaça sur le petit tapis et dit « Au nom de sa majesté Salomon, emmène-nous dans tel endroit. » Le petit tapis s'envola et Dilaram se mit à crier « Où m'emmènes-tu ? » Saad dit « Ne t'afflige pas, car nous allons dans un château. » Mais Saad descendit avec Dilaram aux Indes, dans une île dont il avait prononcé le nom. Saad dit alors « Oh, Dilaram, ôte-toi de la tête tout souvenir de ton pays, car tu ne reverras jamais plus ni ta patrie, ni ton château. » Cela dit, il étendit la main vers elle pour satisfaire le désir de son cœur. Dilaram dit « Oh, Saad, je ne me donnerai pas à toi. » Saad dit « Est-ce que tu rêves ? J'ai couché avec toi 40 nuits. » Elle dit « J'en jure par Dieu, j'ai 40 servantes qui toutes me ressemblent. Chaque nuit, j'en envoyais une qui couchait avec toi. » Saad dit « Cela, c'est encore mieux. Comme c'est agréable quand deux choses réussissent en même temps. La mort d'un rival et la réunion avec l'ami. » Dilaram vit qu'il n'y avait pas de remède et dit « Sans contrat de mariage, je ne me donnerai pas à toi. » Saad dit « Je prononcerai moi-même la formule du mariage et si tu n'es pas contente, je te jetterai dans la mer. » Dilaram forcément se plia au sort et Saad la posséda. Bref, ils passèrent dans cette île 40 jours. Dilaram se faisait aimable vis-à-vis de Saad. Par ruse et à force de flatterie, elle finit par s'emparer de son esprit et, ayant appris de lui les propriétés des 3 objets, guettait l'occasion de s'en servir. Il arriva que la flèche menaçant le serpent atteignit le serpent et le sort en riait et criait « Bravo !» Le hasard voulut que Saad se déshabilla et entra dans l'eau pour se laver. Dilaram, profitant de cette occasion, prit la boîte à collyre, le petit sac et les habits de Saad, s'assit sur le petit tapis et dit « Au nom de sa majesté Salomon, emmène-moi dans mon château !» Le tapis tout à coup s'envola et Dilaram parvint immédiatement dans son château. Saad, en sortant de l'eau, vit que sa compagne était partie. Il se frappa la tête de la main de la douleur et tout nu, se mit à courir dans l'île. Pendant 3 nuits et 3 jours, après cet événement, il resta seul à manger des fruits, à pleurer et à gémir vers le trône de Dieu et à tourner la tête vers le ciel en répétant « Seigneur, Seigneur du monde, Seigneur de la terre et du ciel, viens donc à mon secours !» Finalement, il s'assit sous un arbre et leva la tête vers le ciel. Puis, plein de douleur, il s'abaissa sur ses genoux, les yeux endormis, mais le cœur éveillé. Tout à coup, le Tout-Puissant fit preuve de sa toute-puissance. 3 colombes vinrent en volant et se perchèrent sur cet arbre. L'une d'entre elles dit « Oh, mes sœurs, connaissez-vous ce jeune homme ?» Elles dirent « Non ». Elle dit « Ce jeune homme est Saad, qui est amoureux de Dilaram. Dilaram ne l'aime pas, mais le flatte de ses paroles. Saad lui a révélé son secret. Elle se montra traîtresse et le quitta stupéfait et surpris, dans cette île, et est partie elle-même. Mais elle aussi aura sa punition. Une autre colombe dit, « Ô ma sœur, y a-t-il ou non un remède à son mal ?» Elle dit, « S'il est éveillé, je le dirai pour qu'il entende, et il parviendra à son but. S'il arrache l'écorce de cet arbre et s'en enveloppe les pieds, il pourra traverser la mer. S'il applique des feuilles de cet arbre aux yeux d'un aveugle, celui-là recouvrera sa vue. S'il applique le fruit de cet arbre au nez d'un fou, celui-là recouvrera sa raison. S'il frappe un homme avec une branche de cet arbre, celui-là deviendra âne. Et s'il en frappe un âne, celui-là deviendra homme. Et s'il applique aux yeux le fruit de cet arbre, personne ne le verra. » Elle dit cela, et toutes trois s'envolèrent. Mais Saad était éveillé et avait tout entendu ce que disaient les colombes. Il se leva et rendit grâces à Dieu. Puis Saad fit tout ce qu'avaient dit les colombes du haut de l'arbre. S'étant enveloppé les pieds avec de l'écorce de l'arbre, il adressa une prière à Dieu et se jeta dans la mer. En passant par la surface de l'eau, il atteignit le rivage et se mit en route. En allant de station en station, il arriva dans une ville. La fille du roi de cette ville était folle, et le roi avait promis de la donner en mariage à celui qui la guérirait. Saad se présenta devant le roi et dit « Donne-moi ta fille en mariage. Si je la guéris, qu'elle soit à moi. Si je ne la guéris pas, tu es moi. » Le roi consentit. Saad lui versa les fruits de l'arbre sur le nez. La jeune fille éternua, recouvra tout de suite sa raison et dit « Ô homme, qui es-tu que tu oses être près de moi ?» Saad dit « Que je sois un sacrifice pour toi. Je suis ton mari. » On alla avertir le roi et il donna l'ordre de battre le tambour de la bonne nouvelle. On célébra les fiançailles 7 nuits et 7 jours, et on donna la jeune fille à Saad. Saad posséda la jeune fille. Quelques jours après, il vint auprès du roi et lui dit « Permettez-moi d'aller me venger de quelqu'un qui m'a maltraité. » Le roi dit « Combien de troupes veux-tu ? » Saad dit « Je n'ai pas besoin de troupes. Un esclave noir suffira. » Le roi dit « Fais comme tu voudras. » Alors Saad prit congé du roi et, ayant pris avec lui un esclave noir, se dirigea vers la ville où habitait Dilaram. Lorsqu'il y fut arrivé, il entra dans la ville et descendit dans un caravansérail où il passa la nuit. À l'aube, il se leva et se rendit au château de la jeune femme. Les domestiques et les portiers voulurent l'arrêter. Saad les menaça d'une branche de l'arbre. Ils devinrent tous des ânes, et lui-même, il entra dans la maison de Dilaram. Mais la jeune femme, en voyant Saad, se mit en colère et dit « Mal élevé, qui t'a laissé entrer ici sans ma permission ?» Saad dit « Je suis venue pour monter sur toi. » Elle s'écria « Prenez ce mal élevé !» Mais personne ne répondit à son appel. Elle se leva et ne vit aucune de ses servantes, ni aucun de ses domestiques. À leur place, il y avait un troupeau d'ânes. Dilaram en resta étonné. Saad s'avança et la frappa avec la branche. Au même instant, elle fut changée en âne. Saad monta dessus, sortit du château et rentrant chez lui, dit aux domestiques « Mets un sac sur le dos de cette âne et transporte les ordures du caravansérail dans cette fosse jusqu'à ce qu'elle soit comblée. » Le domestique dit « Je le considère comme un devoir aussi cher que mes yeux. » Puis il l'employa à transporter les ordures. À l'arrivée de la nuit, il mit devant elle un peu de paille et d'orge. Mais Dilaram, qui avait été élevé parmi les caresses et dans le luxe, regardait la paille et l'orge en versant des larmes du coin des yeux. Bref, Dilaram passa 3 nuits et 3 jours de cette façon. Le 3e jour, Saad ressentit dans son cœur de la pitié pour l'état de Dilaram. Il vint auprès d'elle et dit « Comment vas-tu? Si tu rends la boîte à collyre, le petit sac et le petit tapis, tu seras délivré. Quoi que tu sois un âne, tu peux me faire un signe de la tête. » Il la frappa alors avec la branche et Dilaram redevint un être humain. Il lui donna une robe d'honneur et lui prodigua des marques d'amitié. Tous deux entrèrent dans le château et elle lui rendit son bien. Puis, ayant bu du vieux vin, elle vomit et fit sortir le foie de l'oiseau, rendant ainsi tout ce qui chez elle était à lui. Saad, prenant Dilaram avec lui, retourna dans le pays où il avait épousé la fille du roi, après avoir donné aux hommes assis sur les cendres, devant la porte de Dilaram, les moyens de regagner leur patrie. Pendant ce temps, le père et la mère de Saad étaient devenus tous les deux aveugles. Il leur appliqua sur les yeux des feuilles de l'arbre et tous deux recouvrèrent la vue. Puis il dit à sa mère « Tu as bien fait de nous avoir forcés de quitter la maison, mais Dieu nous a protégés. » Et il raconta à son père et à sa mère ce qui lui était arrivé. Sa mère se repentit de ce qu'elle avait fait, mais ce repentir ne servit à rien. Ensuite, il envoya annoncer son arrivée à Saïd. Saïd vint le voir et pendant quelque temps, ils s'adonnèrent aux réjouissances. Puis le beau-père de Saad mourut et Saad devint roi à sa place. Fin du 4e conte des contes du perroquet dans l'édition Les Joyaux de l'Orient par Léonide Bogdanov.